Bienvenue dans le podcast de la Maison des Maternelles. Aujourd'hui, Sarah nous racontera comment elle est finalement tombée enceinte après 7 ans d'essais infructueux. C'était la veille de sa première FIV. Et puis ensuite, le professeur François Oliven, le grand François Oliven, spécialiste en assistance médicale à la procréation, nous éclairera sur les mystères de la fertilité. Sachez que selon l'INED, c'est l'Institut National d'Études Démographiques, il faut en moyenne 7 mois pour tomber enceinte. Ça, c'est la moyenne. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Alors vous, il vous aura fallu quand même 5 ans avant de donner naissance à votre premier bébé. Et vous êtes aujourd'hui l'heureuse maman de Léon qui a 4 ans et d'Esther qui, qui est trop mignonne, qui a 4 mois. Esther qui est quand même le bébé le plus souriant d'Europe de l'Ouest.
C'est ça.
On exactement. Est quand même d'accord. Alors vous avez rencontré Baptiste qui deviendra votre conjoint quand vous avez 18 ans. Mm-hmm. Et 8 ans plus tard, il est temps de commencer à parler d'enfant.
Exactement.
Vous êtes d'accord? Vous êtes raccord sur cette envie?
Oui, on a toujours eu envie d'avoir des enfants tous les deux. Donc,
vous allez voir votre gynécologue?
Oui, et je lui parle de ce projet de bébé. Donc, j'avais 26 ans et elle me dit « Ah bah tiens, vu que tu as quand même beaucoup de douleurs, ça serait peut-être pas mal en projet bébé de faire quand même des examens complémentaires. » Et donc du coup, là me voilà partie pour une échographie, des IRM, etc. Et en fait, la première échographie chez une gynécologue spécialisée, c'est une catastrophe. Hein. Elle me dit en gros que y a de l'endométriose, que vu mon état, j'ai intérêt à me dépêcher si je veux des enfants. Et puis, limite, une fois que j'aurai le nombre d'enfants voulu, il faudra tout enlever.
J'imagine que ça a dû être terrible comme nouvelle quand vous vous y attendiez absolument pas.
Non, pas du tout. Ah non, j'étais à 10 000 lieues de ça et du coup, j'ai fait une crise d'angoisse en sortant. Et puis, il a fallu commencer à faire des examens complémentaires, réfléchir à ce qu'on allait faire, contacter le CHU de Rouen, du coup, qui est spécialisé, qui ont un pôle spécialisé dans l'endométriose. Donc voilà, c'est un parcours...
Oui, c'est là, tout à coup, le monde change, quoi. Vous vous dites, moi, je pensais faire la chose la plus naturelle du monde, c'est-à-dire avoir un enfant, et ça ne va pas être simple. Donc vous avez décidé de ne pas trop tarder, vous décidez d'arrêter la pilule. Mmh. Et là, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Parce qu'on sait que la pilule, ça aide quand on a l'endométriose.
Oui, en fait, j'étais sous pilule depuis mes 16 ans, justement, parce que pour réguler, parce que j'avais des douleurs. Donc, je savais pas ce que ça serait sans hormones. Et en fait, à peine 10 jours après l'arrêt de la pilule, j'ai été hospitalisée pour des douleurs très,
tellement
très fortes.
Vous aviez mal?
Oui. En fait, j'avais eu des reflux dans les trompes de sang. Dans mes antécédents, on m'avait parlé de colite hépatique, de choses comme ça, mais personne n'avait évoqué l'endométriose. Et donc, ça a été 3 ans de douleurs, de kystes, d'échecs. Et vraiment, je vomissais de douleurs 3 jours toutes les 2 semaines, à chaque règle et chaque ovulation pendant 3 ans.
Tellement vous aviez mal. Alors, en plus de la douleur, toujours pas de bébé à l'horizon. Comment est-ce que vous avez vécu cette période?
C'était très, très dur. Parce qu'en plus, on était dans les premiers avec Baptiste à vouloir un enfant. Mmh. On a été les derniers à avoir Léon, du coup, de la bande d'amis. Et c'est une période où, en fait, c'est même pas frustrant, c'est triste. Tous vos amis tombent enceintes et vous avez envie de vous réjouir et vous n'y arrivez pas. Mmh. Et même ma meilleure amie qui est tombée enceinte a mis du temps à me le dire. Parce que, voilà, et en fait, vous rentrez chez vous, vous pleurez, vous n'arrivez pas simplement à être heureuse. J'ai de la chance d'avoir un conjoint qui m'a soutenue, qui ne me mettait pas du tout la pression, qui était dit si on n'y arrive pas naturellement, on pourrait même adopter. Enfin, voilà, il était très soutenant là-dessus. Il rigolait à chaque règle où je sortais des toilettes en pleurant, en me disant ça aurait été une date de naissance nulle ou ça aurait été. Enfin, voilà. Bon, au bout d'un moment, les blagues, ça ne marche plus.
Oui, c'est ça.
Et on se sent très, très seul.
Et chaque cycle, en fait, est terrible. À chaque fois qu'on a ses règles, donc il faut vraiment compter mois par mois, on a un espoir qui est déchu. Donc c'est terrible. Ça. Qu'est-ce qu'on vous a proposé comme solution à ce moment-là?
Au début, rien. C'est-à-dire qu'on a dit il faut attendre. De toute façon, en France, on met 1 an ou 2 avant de commencer à faire vraiment des examens parce qu'on dit que les femmes mettent de plus en plus de temps à tomber enceinte. On ne teste pas le conjoint. Donc ça aussi, c'est hyper culpabilisant parce qu'en gros, c'est que vous le problème. Donc le conjoint est testé qu'au bout de 2 ans aussi. Et j'ai essayé tous les anti-inflammatoires possibles et imaginables, jusqu'à avouer à ma gynécologue que je prenais du cannabis parce que c'est la seule chose qui me calmait.
Calmer vos douleurs.
Mes douleurs. Et elle m'a dit, bah, en fait, comme 75% de nos patients, et que, voilà, en France, c'est pas autorisé. Alors maintenant, on a le THC, et heureusement, c'est...
Pas le THC, le aidez-moi.
Non, justement.
Le CBD, voilà,
CBD,
on va y arriver.
Voilà, sans THC. Oui.
Et sans THC, c'est voilà. Interdit, le THC.
Exactement.
Comment on va le dire. C'est pas le cas dans tous les pays, mais...
C'est ça. Non, non, et donc, heureusement, avec le CBD, mais c'était la seule chose qui me calmait à peu près, quoi. Donc,
alors après quand même, on a fini par vous orienter vers un parcours PMA, j'imagine.
Oui, alors au bout d'un moment, on m'a dit, bon bah là on peut plus vous laisser, alors au bout de 2 ans et demi, je sais pas pourquoi avant, pas avant je veux dire, on peut plus vous laisser avec ces douleurs, c'est plus possible, donc voilà, et le gynécologue de Rouen m'a dit, on passe directement en FIV, de toute façon là votre endomètre est trop fin, il y a de l'endométriose donc sur mes ligaments entre l'utérus et le sacrum, sur mes ovaires, sur tout, enfin voilà, donc il y a rien qui s'accroche. Je faisais même pas une fausse couche, rien du tout.
Oui, il y avait donc, rien, il n'y avait pas l'ombre d'une grossesse.
Non, je me demandais si vraiment je pouvais tomber enceinte. Et donc, ça a été FIV. Et là, c'est compliqué parce que tous vos rêves d'annoncer votre grossesse, surprise à la famille, tout ça, tout tombe en fait.
Oui,
et
tout
est médicalisé, tout est suivi par tout le monde. Donc, c'est même plus un projet secret avec votre amoureux, c'est même plus... Enfin, voilà,
oui,
c'est compliqué.
Dès qu'il y a de la médecine là-dedans, forcément, on perd tout le folklore.
C'est ça.
Ce à quoi on rêve depuis qu'on est toute petite fille, quoi, finalement.
Voilà, exactement.
Est-ce que vous abordiez quand même cette PMA confiante?
Baptiste, oui, mon conjoint, lui, il était positif et voilà, toujours dans l'accompagnement et tout. Et confiant en la médecine. Moi, c'est pas que j'avais pas confiance, mais j'étais juste triste, en fait, de pas arriver à avoir un enfant naturellement. Et j'avais du mal, comme je vous ai dit, à médicaliser tout ça. Et donc, j'ai fait une petite dépression. En plus, c'était la veille de mon anniversaire. Et du coup, voilà, non, c'était... J'étais inquiète de comment ça allait se passer. J'étais inquiète de tout le protocole,
oui,
de médicaliser.
Oui, puis il y a une injustice, quoi. C'est pas juste.
Ouais,
vous avez toutes vos copines qui tombent enceintes en claquant des doigts. Et puis, vous, voilà, quoi. Vous rentrez dans un parcours. On sait que ça va pas être facile. On sait que
on
va devoir se piquer. Enfin, c'est pas chouette. Donc, vous avez un rendez-vous pour la FIV qui est fixé au premier jour de vos prochaines règles.
Exactement.
Alors, racontez-nous ce qui se passe à ce moment-là. Parce que c'est là que ça devient sympa, je vous le dis.
Exactement. Et du coup, j'attendais mes règles. En plus, je devais partir en week-end surf avec des copains. Donc, il fallait que j'ai mes règles pour me présenter le vendredi à l'hôpital pour commencer les injections, etc. Et partir en week-end derrière. Et puis, pas de règles. Donc, je me dis, on va même pas pouvoir partir en week-end. Voilà. Enfin,
décidément, c'est pas juste.
C'est ça. De toute façon, depuis 3 ans, c'est comme ça. Puis, mes règles, elles font ce qu'elles veulent. Et de toute façon, pour rien en plus. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ouvre mon tiroir dans ma salle de bain. J'avais un test de grossesse, mais de toute façon, lui, il ne servira plus jamais à rien. Je vais aux toilettes, je fais pipi dessus, je le pose dans la cuisine. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ce test, en fait.
Ouais, mais on aime bien faire les tests de grossesse,
c'est ça,
quand même.
Exactement. Et puis, je suis allée m'habiller. Et puis, je repasse devant dans la cuisine. Et là, mon regard est attiré par le test où je vois 2 traits. Et là, je vous jure, le temps s'est arrêté. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Non, c'est pas possible. Donc, j'ai dû en refaire 3 derrière. Je suis allée aussi très vite me faire faire mes prises de sang. J'en ai même fait 2.
Oh là là.
Un peu, voilà. Mais je réalisais pas du tout. Et quand on m'a dit, vous êtes enceinte de 2 semaines, j'ai dit, mais en fait, c'est pas possible. Là, je viens à l'hôpital pour ça, pour avoir un enfant. Je peux pas, donc c'est impossible. J'ai eu vraiment du mal à réaliser ce qui se passait.
Et votre conjoint, alors, quand vous lui avez annoncé ?
Ah ben lui, c'était tellement drôle. Il n'arrêtait pas de me dire, mais quand est-ce qu'on sera sûr ? Alors, je lui dis, je suis ostéopathe en plus en périnatalité, donc j'ai plein de parcours compliqués dans mon métier que je suis, mes patientes. Donc moi, tout de suite, je me suis dit, il me demande si je vais faire une fausse couche ou tout ça. Et je lui dis, j'en sais rien, il faut attendre le premier trimestre. Il me dit, non, mais quand est-ce qu'on sera sûr que tu es enceinte ? Je dis, là, c'est sûr. Non, mais on est certain. Je dis oui. Il m'a posé la question 10 000 fois jusqu'à ce qu'il pleure et qu'il me prenne dans les bras. Et voilà. Mais on a passé quand même 48 heures sur le canapé comme ça.
Oh oui, c'est un choc positif.
Mais un choc quand même.
Vous y attendiez tellement pas. Alors, vous avez eu une grossesse, on va dire c'est une parenthèse enchantée avec une petite peur, mais enfin, ça s'est passé très, très bien.
Oui, oui.
Et l'accouchement, alors, cette rencontre avec votre fils?
C'était magique. Alors, très long quand même, 49 heures d'accouchement. Je le voulais naturel, tout ça. Bon, au bout de 36 heures, j'ai quand même demandé la péridurale finalement.
Ah bah, vous êtes drôlement forte. Vous êtes quand même déjà une héroïne.
Oui. Elle, du coup, elle est arrivée sans péridurale et naturellement.
Oui.
Voilà. Oh là là. Et du coup, non, et je l'ai eu par voix basse et ça s'est très bien passé. On ne connaissait pas le sexe, donc ça a été un moment aussi magique de la rencontre. Et puis le premier cri, je crois que c'est un moment qu'on peut...
Vous dites ça y est, quoi, j'ai réussi.
Oui, c'est ça.
Et puis vous avez voulu donc agrandir la famille. Donc vous avez voulu profiter de, je dirais, de votre maternité le plus possible. C'est pour ça que vous avez accouché sans péridurale ?
Oui.
Vous vouliez vraiment vivre l'expérience à fond.
Exactement. Ouais, ouais. Et puis je voulais agrandir la famille malgré voilà toutes ces souffrances, ces douleurs. J'avoue que j'avais beaucoup d'appréhension pour le deuxième. Heureusement, elle est arrivée en 4 mois.
Mais vous l'avez fait naturellement aussi.
Naturellement, mais 4 mois où j'étais sous morphine.
Ah, sous morphine.
Et carrément. En fait, au bout de 4 mois, toutes les années pour avoir Léon me sont revenues en pleine figure. Psychologiquement, c'était très dur. Et donc, je me suis dit, au bout de 4 mois, j'ai dit à mon conjoint, écoute, c'est la dernière ovulation. Je ne revivrai pas tout ça.
Quoi, voilà.
Ouais. Et il m'a dit, on ne va pas l'avoir au prix de ta santé, cet enfant. Donc, voilà. Et le soir même, on a fait un câlin et je pense que cette choupette s'est dit « Ouh là là, maman veut tout arrêter ».
Franchement, là, j'ai une possibilité, j'y vais.
Ouais. Et donc finalement, elle est arrivée sur le gong au point où j'allais tout abandonner. Quoi.
Oh. Donc, c'est une belle histoire. Et là, vous allez comment aujourd'hui alors ?
Je vais bien. J'ai été mise sous contraception le plus tôt possible après l'accouchement.
Pour enlever les douleurs.
Voilà, pour pas avoir de retour de couche et puis l'endométriose s'aggrave. Voilà. J'ai pas encore fait d'examen pour savoir où c'en est après la grossesse, mais pour l'instant, je profite à fond. Oui. Puis ma petite vengeance est de suivre mes patientes et de les accompagner aussi dans ce parcours-là.
Vous faites un beau métier, professeur François Oliven, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue, obstétricien, vous êtes spécialisé dans la médecine de reproduction et vous avez notamment écrit ce livre qui s'affiche donc sur l'écran qui s'appelle « 1001 bébés » et c'est paru chez Grasset, très joli bouquin. On a vu que Sarah s'était donc lancée dans un parcours PMA parce qu'elle souffrait d'endométriose. Est-ce qu'on peut faire un point pour démarrer sur les principales causes d'infertilité ?
Alors, schématiquement, à peu près 40% de causes féminines, 20% de causes masculines isolées et 40% de causes mixtes, un facteur féminin et masculin. Principalement, les troubles de l'ovulation chez la femme. Maintenant, arrive aussi la baisse des spermatozoïdes chez l'homme, dont on a souvent parlé, donc les causes masculines liées à une faible production de spermatozoïdes.
Voyez de plus en plus ?
Qu'on voit de plus en plus, qui font partie des causes. Et puis après, il y a tout un ensemble de choses au sein desquelles il y a l'endométriose. Et bien sûr, il faut le dire quand même, le fait que les couples font des enfants de plus en plus tard. Et il y a aussi un facteur majeur qui est l'âge de la femme. C'est injuste, mais c'est un facteur d'infertilité.
À qui le dites-vous ?
Jade vous demande quel est le pourcentage d'une réussite d'une PMA. Alors évidemment, ça dépend notamment de l'âge.
Voilà, on en parlait. Énormément, mais... Globalement, 25-30% par essai, mais évidemment, à 42 ans, c'est plutôt 10%. Donc, l'âge de la femme est principal facteur, et aussi la santé des ovaires, parce que malheureusement, en plus de cet aspect d'âge, il y a des grandes variations dans ce qu'on appelle la réserve ovarienne, c'est-à-dire le compte de follicules, le nombre de follicules, entre des femmes du même âge. Donc, on peut être jeune... et avoir peu de follicules, on peut être, entre guillemets, autour de 40 ans et avoir plein de follicules. Et cet aspect-là
ça,
joue aussi.
Ça, c'est une injustice de la nature, ça ne s'explique absolument pas par l'environnement
Probablement si, puisque ce qui donne la baisse de la fertilité de l'homme, facilement mesurable par un spermogramme, doit sûrement jouer sur les femmes, sauf que là, on n'a pas de méthode aussi simple pour le mesurer. Il y a des toxiques bien connus, le tabac, ou certaines, par exemple une chimiothérapie ou des choses comme ça. Donc il y a des facteurs extérieurs qui peuvent détruire les ovocytes. Il y a le stock dont on hérite, et ça c'est génétique. On pense peut-être que même quand la mère est enceinte, si elle fume beaucoup, peut-être que ça fait moins d'ovocytes.
C'est ça.
Hein ? Et puis après, il y a le taux avec lequel ces ovocytes vont décroître dans la vie de la femme, et ça c'est variable d'une femme à l'autre pour des raisons qu'aujourd'hui on connaît mal.
Les perturbateurs endocriniens, on soupçonne aussi.
Voilà, les perturbateurs endocriniens, c'est ce qui peut jouer sûrement sur le sperme de l'homme, donc et probablement aussi sur la fertilité de la femme. On a du mal à le prouver. Ouais. Alors ça a été prouvé, par exemple, il y a cette étude historique et géniale des bananeraies en Martinique, qui a montré que certains produits qu'on utilisait dans ces bananeraies avaient une toxicité sur le sperme. Et dès que l'homme était... Parce que l'homme, il a une chance, c'est qu'il fabrique toute sa vie des spermatozoïdes. Alors que la femme, elle a un stock qui décroît. Donc cet homme, quand on le mettait
on
en dehors... Voilà, quand on le privait de ces toxiques, tout d'un coup, sa production spermatique revenait. Ouais.
Emma vous dit 8 ans de PMA, mon couple y a laissé des plumes, je déplore un vrai suivi psy. Est-ce qu'un suivi psy est prévu dans le parcours ?
Alors non seulement il est prévu, mais la loi de bioéthique avait imposé que tous les centres de PMA aient un psy dans l'équipe. Donc oui, les gens y ont pensé. Après, est-ce que les médecins le recommandent assez ? Probablement pas, mais aussi de mon expérience. Moi, je suis fils de deux psys, donc assez sensibilisé, psychiatre. Assez sensibilisé au problème, j'ai plusieurs personnes à recommander, mais je vois souvent des couples qui n'ont pas envie, c'est eux qui n'ont pas envie d'aller voir le psy. En France, on considère encore beaucoup trop qu'aller voir le psy, c'est
fou.
Voilà,
c'est
être fou. Donc il faut aussi que les couples aient l'envie de se faire accompagner, c'est très utile.
Vous êtes un peu psy, vous aussi, non ?
À force,
on est
quand
un
même.
Peu psy, oui. Ouais. Oui, psy au sens psychiatre, pas au sens psychopathe. Oui, je suis un peu psy.
Je ne serais pas permis, mais cela dit, madame, vous le dites. Ouais. On a reçu certains de vos confrères. Clarisse dit enceinte suite à une FIV. J'ai lu que j'avais plus de risques de faire une fausse couche. Est-ce que c'est vrai ?
Non, c'est faux. On n'a pas plus de risques d'avoir une fausse couche après FIV, mais on n'a pas moins non plus. Donc évidemment, vous imaginez bien que pour un couple... qui a un parcours long, qui a enfin la grossesse, et tout d'un coup, ça s'arrête, c'est dramatique.
C'est Nouria vous demande à quel moment il faut s'inquiéter quand le bébé ne vient pas.
Bah, si on a moins de 36 ans, je dirais, au bout d'un an, en ayant des rapports réguliers quand même, hein, évidemment, si on a des rapports une fois par mois, il ne faut pas s'inquiéter.
Oui, parce qu'en en fait, on va quand même le rappeler, la première prescription, c'est
voilà,
faire l'amour.
Voilà, c'est faire l'amour régulièrement, parce que la femme est féconde une journée par mois.
Oui,
c'est triste,
ça.
Mais particule. Oui. Donc, il faut avoir des rapports au moins tous les deux jours dans la période de fertilité. Et si on a 36, 37, 38 et plus, au bout de 6 mois, il faut aller consulter.
Joe vous dit, avec la levée de l'anonymat et l'augmentation du nombre de personnes pouvant recourir à la PMA, est-ce qu'une pénurie de sperme est à craindre ?
Alors, ça, c'est concernant les spermes de donneurs. Dans les quelques pays qui ont levé l'anonymat, il y a eu une petite baisse initiale et après, aujourd'hui, ils ont tous constaté qu'il y avait paradoxalement plus de donneurs. Donc, normalement, non. On ne devrait pas avoir de pénurie de donneurs.
Et en revanche, on continue de manquer de donneurs.
On n'a pas assez de donneurs par rapport à la demande. Il y a eu, au moment où on a autorisé, il y a un peu plus d'un an, l'accès aux donneurs, surtout les femmes seules, les femmes homosexuelles, mais c'est surtout les femmes seules qui se sont présentées en masse dans des centres qui sont débordés parce que les moyens n'ont pas été assortis à la demande. Donc aujourd'hui, il y a des attentes tout à fait anormales dans les centres.
Caro nous envoie à l'instant, nous avons une fille, mais là, impossible d'être enceinte, nous avons fait tous les tests médicaux, il n'y a pas d'explication, j'ai fait des FIV, mais ça n'accroche pas. Elle vous demande que faire.
Que faire ? 30% des couples qui viennent pour infertilité ont déjà eu une grossesse, soit un enfant, soit une fausse couche, soit une grossesse extra-utérine. Donc c'est fréquent. Et 15% des gens qui viennent consulter n'ont pas de cause, on parle de stérilité inexpliquée. Que faire ?
Au moins, on ne dit plus, c'est dans votre tête, ce qui, je crois, a été
voilà,
dit à un
exact.
Moment.
Oui, bien sûr.
C'est culpabilisant, ça,
très,
quand même.
Très culpabilisant. Ou quand l'entourage dit « arrête d'y penser
oui, ». Oui,
voilà.
Bien sûr.
Mais c'est très bien quand on vous dit « déstresse-toi », on a envie de dire « bah oui, c'est vrai, bah oui, t'as raison, j'y avais pas pensé ».
C'est ça, c'est un peu ça, oui. Bah, là, il faudrait connaître le cas. Bon, après, il y a des échecs de FIV, il faudrait savoir quel est son âge, etc. Il y a des échecs de FIV qu'on peut expliquer, mais... Aujourd'hui, le principal, il y a deux écueils de cette PMA, c'est remédier à l'âge des femmes, on ne sait pas, quand c'est au-delà de 40 ans, et ce qu'on appelle l'implantation des embryons, c'est-à-dire quand un embryon ne s'accroche pas de manière répétée, les échecs répétés d'implantation, c'est un peu la boîte noire, on connaît mal l'implantation et on est un peu démunis pour trouver les causes. C'est pour ça que les couples, ils ont un peu l'impression de temps en temps qu'on refait un peu la même chose, mais parce que si on ne sait pas quoi faire, on est... Bon, il y a quand même des tests qu'on peut faire pour essayer d'expliquer pourquoi ça ne marche pas.
Merci au professeur François Oliven, merci à Sarah. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles.